Daniel Ben Saïd est militant politique à titre, je dirais, de dirigeant et de théoricien de la Ligue communiste révolutionnaire française. Il enseigne la philosophie à l'Université de Paris 8. Ses ouvrages récents, je l'ai mentionné au début de l'émission, Les Dépossédés, publié il n'y a pas tellement longtemps au Québec par Lux Éditeur. Il y a eu récemment, l'an dernier, je crois, un nouveau théologien, Bernard-Henri Lévy, chez Ligne. Et voici donc quelques titres, ou plutôt quelques parutions récentes. On dit de lui qu'il est la figure de proue de l'intellectualisme trotskiste en France. En fait, c'est le Figaro qui a dit ça de vous. Dit autrement, Daniel Ben Saïd, bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que je peux dire que vous êtes un gauchiste orthodoxe, pour ne pas dire hardcore?
Non, gauchiste orthodoxe, je ne vois pas ce que serait l'orthodoxie gauchiste. Non, je suis au contraire un hétérodoxe résolu et persistant par rapport aussi bien au Parti communiste dont j'ai été exclu en 1965 que par rapport à la bien-pensance contemporaine.
Vous étiez où, Daniel Ben Saïd, le 5 mai 1968 à 20h27?
Le 5 mai 68 à 20h27. À vrai dire, je sais pas. Je crois que j'étais à Toulouse. J'étais là le 22 mars. J'étais là la nuit des barricades. Donc, en fait, à peu près accompagné le mouvement. Mais étant originaire de Toulouse, j'ai fait un crochet par ma ville natale où s'est créé un mouvement analogue au 22 mars qui s'appelait le 25 avril du nom de sa date de naissance.
Dans la revue sociale et politique québécoise à bâbord, dont le dernier numéro porte en majeure partie sur mai 68, vous signez, Daniel Ben Saïd, un texte, je dirais, au titre éloquent, « Affaires non classées », un titre éloquent et dissonant, si on le met en écho aux propos de Patrick Rothman ou à ceux de Daniel
Hétérodoxe encore.
Hétérodoxe. Patrick Rothman, bon, qui dit essentiellement que, si je me réfère à ses propos d'il y a quelques semaines ici à l'émission, que c'est un événement historique achevé. Qu'est-ce qui en fait pour vous une affaire non classée?
Tout d'abord, il y a un acharnement à classer les affaires historiques. Ça a été un débat de plus d'un siècle pour décréter que la Révolution française était finie, que c'était une affaire d'archives. Et aujourd'hui, on entend tourner la page de 68. Ce que dit Patrick Rothman, et c'est même le titre et le propos du livre qu'a vient de publier Daniel Cohn-Bendit, puisque c'est le titre, c'est Forget 68,
donc qu'il est venu
oublier 68,
qu'il est venu présenter
et
au Québec,
dont le thème est explicitement 68, c'est fini. Alors. Fini, en un certain sens, c'est fini depuis 1968, chronologiquement, il n'y a aucun doute, depuis le 31 décembre. Maintenant, fini politiquement, pourquoi? Alors, ce que dit Cohn-Bendit, c'est fini parce que culturellement, on a gagné. Qui on a gagné? Et j'avoue que je suis un peu irrité, pour pas dire indigné, de dire culturellement, on a gagné, alors qu'on se retrouve 40 ans plus tard avec aujourd'hui 3 millions de chômeurs, il n'y en avait pratiquement pas en 68. Avec 7 millions de travailleurs pauvres en France, avec une grande partie de la population précarisée et une grande partie de la jeunesse qui est condamnée à des emplois précaires. Donc, socialement, on a perdu incontestablement pendant ces 40 années. On est dans la régression sociale. Donc, que culturellement certains aient gagné, c'est certainement vrai. Il y a des gagnants et des perdants de la, non pas de 68, mais des décennies qui ont suivi. Et je crois que, affaire non classée parce que, Sarkozy entendait l'enterrer de manière assez surprenante. Ça a été son dernier discours de campagne. On pouvait s'en étonner que 40 ans après, pourquoi, à 8 jours d'une élection présidentielle, se déchaîner et sortir de sa boîte comme un diablotin pour appeler à liquider 68. En général, ce genre d'excès est plutôt le signe d'une peur que d'une sérénité. La peur que ça recommence, effectivement. Pas la même façon, on n'est pas dans le même contexte, on n'est pas dans le même monde. Mais Sarkozy a perdu en moins d'un an la moitié de sa popularité. Il s'est fait élire sur un discours de volonté politique. Vous allez voir ce que la politique peut. Pour 6 mois après, constater que les caisses étaient vides, il ne pouvait rien faire sur le pouvoir d'achat qui avait été son thème de campagne. Et on va voir dans les semaines qui viennent et dès le mois de mai que le mois de mai, je ne dis pas que ce sera un nouveau 68, rien ne se répète à l'identique. Mais va être un mois de mai très agité en France avec la mobilisation des lycéens et des étudiants sur les réformes de l'éducation, avec les mobilisations syndicales sur la réforme des retraites et déjà deux grèves nationales, si ce n'est générales, le 15 et le 22 mai.
Vous l'avez annoncé il y a 30 ans, le vrai mai 68, en fait. Vous avez fait paraître un livre il y a 30 ans.
Il y a
Mai
20 ans.
68, c'était il y a 20 ans.
Mais
Mai
si, oui.
mai 68, une répétition générale.
Ah non, ça, j'ai fait paraître en 68 même, un mois après les événements.
Un mois après, pour annoncer donc que c'était une répétition générale. Je croyais que c'était il y a 30 ans, donc il y a 40 ans.
Il y a 40 ans, oui.
Vous pronostiquiez une révolution imminente. Elle est pour quand? En fait, vous dites, bon, ça ne se fera pas de la même façon, le contexte ayant changé. Vous parlez d'une révolution politique.
On a moins que d'autres, mais on a participé de l'euphorie, disons, y compris des illusions, il faut le reconnaître, consécutives à 68, sur le fait qu'un grand chambardement était à portée de la main. Il faut se placer quand même dans le contexte de l'époque où on avait le sentiment que l'impérialisme ou la présence coloniale était bousculée un peu partout dans le monde, par les luttes d'indépendance des colonies portugaises, après l'Algérie, le Vietnam, etc., où commençaient à se faire sentir des fissures dans les régimes bureaucratiques d'Europe de l'Est, avec le printemps de Prague en Tchécoslovaquie ou le mouvement étudiant polonais. Donc il y a eu le sentiment que tout cela pouvait converger, qu'il y avait un moment à saisir par les cheveux, un moment propice. Bon, ceci dit, le titre que vous évoquez, Répétition générale, était plutôt le signe à l'époque d'une certaine lucidité et modération. On ne considérait pas que la révolution était au coin de la rue tout de suite, mais que 68 avait été une sorte de scène primitive, d'exercice préalable, comme il y a des répétitions générales au théâtre avant la première. Bon, c'était un peu le sens qu'on lui donnait à l'époque. Bon, bien évidemment, tout ça, ce n'est pas vérifié dans le courant des années 70, mais non pas parce que cette possibilité n'a jamais existé, tout simplement, elle a été défaite par ce qu'on peut appeler le début de la réaction qui s'est manifestée avec la transition monarchique en Espagne en 75, le coup d'arrêt à la révolution portugaise, et puis quand l'initiative a changé de camp avec la contre-réforme initiée par Thatcher en Angleterre et Reagan à la fin des années 70. Donc voilà, on a perdu une bataille, mais l'histoire ne s'arrête jamais.
Alors cette révolution politique, je réitère ma question, puisqu'elle sera politique, ce que je comprends, c'est que la transformation du monde doit obligatoirement passer par le politique. Elle sera incarnée par qui? Et qui va la porter, cette révolution politique, en France, à tout le moins?
Non, mais c'est d'abord un problème de mouvements sociaux, hein. C'est d'abord une résistance et qui manifeste en fait des pistes, non pas un programme achevé, mais des pistes pour un projet de société, ce qui a quelque chose à voir avec le petit livre que vous mentionnez, que publient les éditions Luxe, qui sont les dépossédés. C'est-à-dire comment aujourd'hui, après ce que je considère être presque un quart de siècle de réaction libérale, la question du rapport entre l'espace public et la propriété privée est la question majeure, à mon avis, pas seulement pour la défense des services publics, d'éducation, de santé ou de logement, mais également par rapport à des débats nouveaux sur le brevetage du vivant, sur la propriété intellectuelle, etc. Ça, pour moi, c'est le fil conducteur aujourd'hui de conceptions opposées, antagoniques de société. Or, qui peut porter une réponse à la fois sociale et démocratique à la crise que nous traversons, écologique, sociale? Ça surgit d'abord des mouvements sociaux, ce qui s'est manifesté dans le mouvement altermondialiste, notamment à travers les différents forums de Porto Alegre, de Mumbai ou de Nairobi, et le prochain qui aura lieu cette année même à Belém, mais qui pour le moment n'a pas trouvé justement d'expression politique ou de relais politique à la hauteur des défis.
Mais bon. C'est parce qu'elle a déserté le politique, cette gauche bien-pensante. Oui, on a misé sur l'action sociale, le militantisme social.
C'est ce que j'appelle l'illusion sociale. C'est que beaucoup...
Tous ces concepts, c'est ce que vous appelez l'illusion sociale?
L'illusion sociale, j'utilise ce terme-là un petit peu par analogie. Marx, à son époque, donc il y a très longtemps, dans les années 1840, parlait d'illusion politique de manière polémique par rapport à ses contemporains qui croyaient que l'émancipation humaine se limitait à la conquête du droit de vote et du droit de réunion, en disant non, tant qu'il y a des inégalités sociales, la question démocratique elle-même n'est jamais résolue. Aujourd'hui, je crois qu'on a eu l'illusion inverse avec l'idée que le bilan du XXe siècle, c'est que la politique s'est salissant, que les tentatives de changer le monde non seulement n'ont pas abouti, mais ont abouti parfois à des désastres ou des catastrophes humaines avec les camps soviétiques ou les lendemains de la révolution culturelle en Chine. Donc il y a eu une prise de distance, une méfiance de certaines générations envers la politique, mais on se rend compte maintenant, avec la profondeur de la crise en Amérique latine par exemple, que les mouvements sociaux ne suffisent pas, que la résistance sociale est le point de départ, la condition nécessaire, mais pas suffisante. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le débat sur les alternatives politiques est revenu en force. Alors en Amérique latine, c'est clair. Est-ce qu'il y a une voix brésilienne incarnée par Lula? Est-ce que les propositions de Chavez au Venezuela, de Morales et des mobilisations qui les ont portées au pouvoir esquissent un autre développement avec la création de la Banque du Sud, avec la création d'un fonds alimentaire commun de ces pays latino-américains, etc. Et on voit aussi en Europe aujourd'hui une génération qui revient à la politique par nécessité sûrement et à l'engagement politique en constatant que les mouvements sociaux sont évidemment la condition de tout, mais n'ont pas pu empêcher la guerre d'Irak et ont subi des défaites sur les questions des retraites, des services publics. Donc il faut reconstruire une alternative politique.
Et que parallèlement, le centre-gauche, qu'on appelle chez nous la social-démocratie, c'était un leurre.
C'était un leurre, mais surtout elle s'est transformée. Vient de paraître il y a à peine une semaine en France une nouvelle déclaration de principe du Parti socialiste. C'est un événement, enfin c'est pas un événement majeur, ça fait pas la une des journaux et effectivement il n'y a pas matière. Mais c'est la cinquième en un siècle, donc c'est pas si fréquent que ça. Et c'est une déclaration de principe dont les traits marquants, à part quelques banalités, c'est de renoncer au qualificatif de révolutionnaire, sans s'en douter, même j'avais oublié qu'il figurait encore dans les textes de référence du Parti socialiste en France, et éliminer du texte et des textes de référence de l'héritage l'idée même de lutte de classe. Alors tout ça est de l'ordre du symbolique, hein, ça ne fait qu'entériner une situation déjà établie, mais pourquoi aujourd'hui éprouver le besoin justement de cette mise à jour symbolique? Je crois qu'on est en Europe, je ne sais pas ce qu'il en est au Québec, je ne suis pas assez familier de la situation, en Europe où toute ce qu'a été la social-démocratie comme gérante de ce qu'on a appelé l'État social ou l'État de bien-être ou le welfare de l'après-guerre, aujourd'hui a accompagné finalement, avec quelques nuances, mais fondamentalement accompagné les politiques libérales. Et ce qui fait que le Parti socialiste français, peut-être le dernier d'entre eux, à s'aligner sur la modernisation, entre guillemets, du New Labour britannique ou du Parti démocrate italien, ce qui, évidemment, à l'échelle européenne, dégage un espace, puisque les partis communistes, sauf en Grèce ou au Portugal, ont pratiquement disparu, dégage un espace, aujourd'hui, à gauche, de la gauche parlementaire traditionnelle, qui existe à peu près dans tous les pays, qui est exprimé par une nouvelle organisation comme Die Linke en Allemagne, par la candidature ou la figure symbolique d'Olivier Besancenot en France, et par des formations analogues au Portugal ou en Grèce, par exemple.
Besancenot qui a quand même bien performé aux dernières présidentielles.
Oui, je m'en réjouis puisque c'est pour nous, bah justement, c'est une des satisfactions comme quoi 68, c'est pas fini. 68 au présent, c'est Besancenot.
Donc la vraie gauche, elle est communiste.
Elle est communiste au sens historique du terme, pas au sens soviétique ou stalinien, mais au sens de la Commune de Paris, c'est-à-dire d'un idéal d'abord de solidarité et de démocratie la plus contrôlée possible, c'est-à-dire où on reste maître de ses décisions collectives à une époque où, justement, on tend à réhabiliter des figures de sauveurs suprêmes, ou en tout cas à personnaliser à outrance la politique à travers notamment le jeu médiatique. On a vu ça à la dernière élection présidentielle en France, c'était une première. Le discours étudié des principaux candidats, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, on n'a jamais vu une telle inflation de jeu, de première personne. Ségolène Royal, dans son principal discours, employait 263 fois « jeu », pour 60 fois nous seulement. Et quand elle disait nous, c'était pas nous les travailleurs ou nous, même les socialistes, c'était nous la France, pour répondre à Sarkozy. Donc il y a là un changement, y compris du discours et de la place de la politique. Et ce qu'on veut faire, c'est défendre justement une politique d'en bas qui soit fidèle aux mouvements sociaux, à leur expression, et qui établisse par rapport à la démocratie d'opinion, à la cooptation des porte-paroles, une démocratie contrôlée dont les partis politiques sont une pièce indispensable.
Pourquoi aborder, cela dit, maintenant le problème par la négation? J'ai cru comprendre que la Ligue communiste révolutionnaire va changer de nom. Ce qui circule comme nom, je dirais, officieux et nouveau parti anticapitaliste, c'est intéressant ça, de le souligner. Nous ne sommes plus communistes, nous sommes maintenant anticapitalistes. Vous abordez le problème par la négation.
Ben, vous savez, je suis prof de philo, alors autant utiliser la dialectique de Hegel. La négation n'est que la préparation de la négation de la négation. Donc, on va bien finir par donner une définition positive. Bon, l'idée de nouveau parti anticapitaliste, c'est pour dire simplement qu'à l'épreuve de l'expérience des 6 dernières années, ce qui a été défini souvent, le mouvement altermondialiste, a été qualifié d'antilibéral. Il l'était par rapport à l'excès des réformes libérales, justement, des dernières décennies. Mais le libéralisme est un vaste titre et on va voir aujourd'hui, devant la crise financière ou la crise alimentaire, des libéraux plus tempérés qui vont continuer dans la même logique, mais en essayant de remettre un peu d'ordre dans le système monétaire ou dans les systèmes de régulation. Bon, pour nous, employer le mot d'anticapitalisme, c'est de dire que fondamentalement, les désordres du monde, aussi bien écologiques que sociaux qu'alimentaires, sont la conséquence d'une logique de concurrence débridée et de la manière dont le capital, pour se survivre, pour échapper à ces crises, fuit en avant devant son ombre en provoquant des dégâts que l'on constate. Donc, de dire voilà, pour nous, où est la racine des problèmes? Maintenant, je ne pense pas que ce soit un bon nom. Je pense qu'il faut définir. Non, non, c'est un nom provisoire. Il y aura un congrès constituant de ce nouveau parti en janvier 2009 qui choisira un nom qui sera un nom de proposition du monde que nous voulons et pas seulement de celui que nous combattons.
Ce que vous décriez, Karl Marx en parlait déjà il y a 150 ans, c'est assez intéressant. Les dépossédés, donc Karl Marx, Les voleurs de bois et le droit des pauvres, votre ouvrage paru chez Lux ici au Québec, Daniel Ben Saïd, nous ramène aux premiers écrits de Karl Marx. Pourquoi retourner à la source?
Ben, ça a été, ce livre est né pratiquement d'un hasard. Hein. C'est que c'est un éditeur espagnol en l'occurrence qui m'avait demandé de faire une introduction qui est devenue un petit livre. Bon, c'est un texte que j'avais pas relu, puis qui me paraissait une curiosité historique, effectivement. Marx, le vol de bois, la législation pénale contre les ramasseurs de bois morts, les glaneurs ou la libre pâture, qui étaient des droits collectifs et communaux existants à peu près partout dans les campagnes, en France d'ailleurs comme en Allemagne. Et puis en relisant le texte,
Et qu'on a fini par interdire.
Qu'on a fini par interdire, évidemment,
Et
mais
punir sévèrement.
c'était une bataille considérable. Hein, ça s'est pas fait naturellement et spontanément. Une véritable charge pénale et policière contre les droits communaux pour obliger les agriculteurs, les paysans de l'époque privés de ces droits communaux, de venir s'offrir comme main-d'œuvre sur le nouveau marché du travail industriel qui était en formation en Angleterre comme en France dans les années 1840. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est l'analogie par rapport à aujourd'hui. À l'époque, le débat qui est derrière cette législation et derrière le jargon juridique, c'est d'établir une nouvelle frontière entre l'espace public et le bien commun d'un côté et de l'autre côté ce qui est privatisable, appropriable de manière privative, en l'occurrence la terre, la propriété foncière, et pour créer un marché du travail. Or, aujourd'hui, on est à une proportion bien plus grande dans un débat du même ordre, c'est-à-dire d'un côté étendre le domaine du privatisable aux connaissances, notamment par les débats sur le dépôt de brevets sur les logiciels, qui est un langage, le langage informatique est un langage. Si on appliquait la même logique à la vieille géométrie d'Euclide, on aurait privatisé les théorèmes d'Euclide. Donc, privatisation des connaissances et du langage, privatisation du vivant. Il y a eu l'an dernier 150 000 brevets déposés sur des molécules, donc voire même sur des séquences géniques. Autrement dit, une extension sans précédent du domaine privatisable et donc dont on peut faire commerce, hein, ou marchandisable, si on veut le dire autrement. Et la contrepartie ou la condition de ça, c'est la destruction non plus des vieux biens communaux villageois dont parle Marx à l'époque, mais des solidarités collectives qui ont été construites tout au long du XXe siècle en matière de services publics ou de sécurité sociale. Donc on a là, à un siècle et demi de distance, des résonances, c'est pas la même chose, mais quelque chose à en tirer. Et finalement, Marx, on dit parfois, mais bon, 150 ans, c'est vieux, bien plus vieux encore que 68, c'est même assez ringard. Généralement, les gens qui disent ça, eux, trouvent beaucoup de modernité chez Tocqueville, voire chez Locke. Bon, donc, non, je crois que Marx, son actualité, c'est qu'il a pensé à l'état naissant la logique du capital qui, à son époque, ne dominait qu'une petite partie du monde, l'Europe et une partie d'Amérique du Nord, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu effectivement un phénomène planétaire.
Les dépossédés, Karl Marx, les voleurs de bois et le droit des pauvres de Daniel Ben Saïd, c'est chez Lux, dans la collection Instinct de liberté. Daniel Ben Saïd, une des têtes dirigeantes de la Ligue communiste révolutionnaire et professeur de philosophie à l'Université de Paris 8, chez nous pour participer au congrès, entre autres au congrès de l'ACFAS. Je vais vous donner tous les détails dans quelques instants. Daniel Ben Saïd, merci d'avoir été ici.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.